Très bien. Monsieur, mesdames, messieurs, donc l'article 47.4 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication confie, vous le savez, au Conseil supérieur de l'audiovisuel le soin de nommer pour 5 ans à la majorité des membres qui le composent le président ou la présidente de la société publique France Télévisions. Cette même loi précise d'une part que les candidatures à ces fonctions sont présentées et évaluées sur la base d'un projet stratégique, ce que vous avez produit à l'appui de votre candidature et que tous les membres du collège ont sous les yeux et dont ils ont pris connaissance avec attention. Et d'autre part que cette nomination, je cite, se fonde sur des critères de compétences et d'expérience. En application de ces dispositions, il revient donc au Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder à cette nomination pour un mandat qui débutera le 22 août prochain. Et dans cette perspective, le Conseil a déterminé la procédure qu'il entendait suivre dans une résolution du 26 février dernier qui a été publiée au Journal officiel. Le calendrier de cette procédure que nous avons souhaité à chaque étape la plus transparente possible a été modifié pour tenir compte de l'état d'urgence sanitaire. C'est pour ça que j'en rappellerai brièvement les principales étapes. Le Conseil a d'abord lancé un appel à candidature qui a été clôturé le 10 juillet dernier. À la suite de cet appel, la liste des candidatures recevables ainsi que les projets stratégiques correspondants ont été publiés mercredi dernier sur le site du Conseil supérieur. Nous auditionnons cette semaine, donc aujourd'hui et demain, les candidates et les candidats dont les candidatures ont été jugées recevables dans un ordre qui a été déterminé par tirage au sort. Et à l'issue de ces auditions, nous prévoyons de procéder à la nomination par une décision motivée au plus tard ce vendredi 24 juillet 2020. Donc dans ce cadre, monsieur, je vais vous céder dans quelques instants la parole pour une présentation liminaire de votre projet, votre candidature, une présentation d'une durée maximale de 30 minutes. Donc, par souci d'équité, je surveillerai la montre, qui pourra être suivie donc, de quelques questions des membres du collège, dans une durée globale, y compris votre présentation d'une heure maximum. Cette première partie de l'audition, vous le savez, est publique, et elle est retransmise sur le site du Conseil supérieur et est accessible aux personnes en situation de handicap. Et cette première partie sera ensuite suivie d'une discussion avec les membres du collège, d'une durée d'une heure également. Cette seconde partie se déroulera, quant à elle, à huis clos, conformément à une décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 2000. Et donc, je vous donne la parole pour 30 minutes maximum.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, les conseillères et les conseillers, c'est un honneur, c'est un privilège de me retrouver parmi vous et devant vous aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Jean-Paul Philippot, j'ai une formation de finance, d'économie et de gestion. Je ne suis pas producteur, je ne suis pas journaliste et je ne suis pas un spécialiste de la programmation. J'ai passé la première partie de ma carrière professionnelle dans le secteur hospitalier des systèmes de soins, un secteur où le bien social, l'intérêt collectif, la difficulté aussi à appréhender la valeur marchande, la notion de qualité centrale sont les caractéristiques qu'on peut retrouver dans ce qui fonde la deuxième partie de mon expérience professionnelle depuis 18 ans, au sein de la radio-télévision belge francophone. Je me présente devant vous avec une conviction intime. Les médias de service public, les missions qu'ils remplissent, les valeurs qu'ils portent, ont une place dans le XXIe siècle. Comme acteurs, animateurs de la démocratie, d'une démocratie active, comme promoteurs, ambassadeurs de la création et de la culture comme acteur, levier, outil de la cohésion sociale. Je me présente à vous avec
un sens aigu des responsabilités, un énorme respect pour celles et ceux qui forment le corps social de France Télévisions. Beaucoup d'humilité également, j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et une pointe d'urgence. L'urgence à épouser les contours d'un espace audiovisuel qui se bouleverse. Urgence à remplir ses missions éditoriales dans une société qui est traversée de fractures, de doutes et qui se transforme. Ma démarche est portée par mon expérience. 18 ans au sein d'équipes de radio et de télévision en Belgique francophone m'ont permis de contribuer à faire passer des radios et des télévisions du XXe siècle, un peu désuètes, un environnement technologique obsolète, des finances dégradées. Ça m'a permis, avec un groupe, de le transformer en un média global qui aujourd'hui a un lien avec la population belge francophone plus fort qu'il n'a jamais eu tout au long de ces dernières années, tant en radio qu'en télévision, médias linéaires qui se sont renforcés, dont le caractère distinctif est plus reconnu aujourd'hui que jamais, que sur des plateformes numériques. Et nous avons lancé, développé, et aujourd'hui nous opérons la première plateforme audiovisuelle, la plateforme de référence sur le territoire belge francophone. Mon projet est celui d'un homme francophone, belge, européen. Et j'ai eu la chance, le privilège d'être pendant 10 ans président de l'Union des radios et des télévisions publiques européennes et d'occuper dans un siège d'observateur, d'animateur, d'acteur de cette transformation. Ça m'a permis d'enrichir ma compréhension du secteur, d'en voir toute la diversité, de voir également la chance de vivre dans un espace européen où la culture est considérée comme un bien et comme un bien qui doit échapper à un certain nombre de lois de marché. Ma chance aussi de pouvoir travailler à la diversité, au renforcement des diversités de ces cultures. Ma chance enfin de m'être enrichi des expériences de mes consoeurs et collègues partout en Europe. Ça me donne peut-être une perception plus forte encore de la place et du rôle que France Télévisions et plus largement les médias français ont joué, jouent et doivent occuper dans l'espace des médias en France, naturellement, en Europe et dans le monde. L'audiovisuel, et vous le savez bien mieux que moi, est dans une phase de transformation profonde. Il est devenu global, la singularité des cultures, l'affirmation de la culture francophone dans cet espace global est probablement plus fragile aujourd'hui qu'il y a 20 ans et dès lors plus nécessaire à réaffirmer avec force. L'ambition de mon projet, c'est l'ambition de France Télévisions dans le XXIe siècle. L'ambition de la culture française qui rayonne, l'ambition de France Télévisions au sein d'une communauté qui co-crée l'espace des médias publics français, l'ambition d'un média public français, acteur, partenaire de la francophonie, l'ambition de France Télévisions comme acteur de référence en Europe et dans le monde. Et cette ambition n'est pas démesurée. Troisième groupe média public européen, 10e groupe média européen, un des plus importants en Europe. France Télévisions porte la voix des créatrices et des créateurs français, porte un certain sens des valeurs de la démocratie et de la culture, et se rend, il doit être occupé dans cet univers médiatique qui n'est plus fait uniquement de télévision et de médias linéaires, mais également et peut-être demain de plus en plus de plateformes convergentes, convergées, linéaires et non linéaires. Le projet que j'ai écrit, c'est le projet d'un homme, ça ne peut pas être le projet d'une entreprise. Cette entreprise, elle devra se l'approprier, le corriger, l'enrichir pour en faire quelque chose qui sera son projet d'entreprise. Un média public, il se distingue par une offre éditoriale forte, affirmée, rigoureuse. Et il n'est pas démodé d'exprimer l'approche éditoriale du média public par une approche de l'offre. L'antagonisme entre une démarche éditoriale de la demande et de l'offre existait au XXe siècle et n'existe plus en 2020 et elle n'existera plus dans le futur, le média public s'affiche et sa distinction, elle se fait au travers de sa politique et de sa ligne éditoriale. Mais un média public au XXIe siècle, c'est un média qui s'adresse à toutes et à tous, dans la pluralité des usages, la diversité des plateformes, et donc la préoccupation du public est consubstantielle de la mission de service public. Premier axe de mon projet, il est éditorial. Il est bien entendu qu'un média public doit se décliner dans tous les genres et pour tous les publics. L'offre éditoriale de France Télévisions, demain, elle doit être originale, elle doit se distinguer, elle doit être créative, elle doit être également moderne, contemporaine. Elle doit aussi et surtout être linéaire et non linéaire. Première priorité, l'information. Elle est dans l'ADN du service public. Le premier directeur de la BBC définissait ses missions comme les missions d'informer, d'éduquer et de divertir. L'information, elle est cruciale au XXIe siècle. Constat qui est fait par un certain nombre d'études, de centres de recherche. La confiance dans l'information s'est dégradée ces dernières années. Et elle est particulièrement faible en France. C'est un constat. Ce n'est pas une critique et ce n'est certainement pas une situation dont on doit se satisfaire et dont on doit laisser comme ça. Je pense que le média de service public, France Télévisions, première rédaction de France, doit travailler à la restauration de cette confiance, qui est plus forte pour les médias publics que pour d'autres en France, comme dans la toute grande majorité des pays européens, en affichant tout d'abord son indépendance, sa fiabilité et son pluralisme. Je ne suis pas journaliste. N'attendez pas de moi que je vous dicte ou que je vous explique ce qu'est leur travail. En tant qu'administrateur général de la RTBF aujourd'hui, président de France Télévisions peut-être, j'aurai à assurer et à garantir son indépendance, le respect des lignes déontologiques et les moyens nécessaires à l'exercice de son travail. La rédaction de France Télévisions, elle est polymorphe. Depuis nombreuses années, on parle de sa réorganisation. Il n'en reste pas moins que c'est la première de France. Elle est très présente. Elle doit certainement encore l'être sur les plateformes linéaires, mais se développer aussi sur celles qui ne le sont pas. Adresser une information au XXIe siècle, c'est l'adresser à toutes et à tous. Je citerai un exemple qui relève de mon expérience. En mai 2019, on a voté partout en Europe pour les élections européennes, en Belgique pour les élections fédérales et régionales également. Nous avons développé, notre rédaction a développé, des formats d'information sur des plateformes non linéaires, sur des réseaux sociaux, sur des plateformes propriétaires et des plateformes de tiers. Auprès des primo-votants, c'est les ceux qui n'avaient jamais voté, qui avaient 18 ans pour la première fois. L'audience de ces formats sur ces plateformes non linéaires a été 10 fois supérieure à l'audience de ce même public sur les médias traditionnels et au travers des grands rendez-vous de débats politiques et d'informations sur les enjeux de ces élections. 10 fois supérieure. Ça ne renvoie pas dos à dos l'approche éditoriale des médias linéaires et non linéaires. Ça conforte la nécessité d'adresser cette priorité éditoriale sur des plateformes linéaires de télévision comme sur des plateformes non linéaires, pour toucher tous les publics et faire donc son métier. L'information, si on veut la renforcer, il y a énormément d'exemples. Un travail remarquable qui a été fait il y a 2 ans par un professeur finlandais et une chercheuse hollandaise sur le sujet montrait à quel point, derrière l'information, il y a évidemment les formats et les publics, il y a aussi le devoir d'explication et la capacité à reconnaître ses erreurs. Ce n'est jamais facile. Mais nous nous trompons tous les jours. Et dans ce monde, dans ce XXIe siècle, expliquer les enjeux et les décisions éditoriales, reconnaître et corriger ses erreurs, fait partie du travail d'informer. Je veillerai également à poursuivre l'investissement dans l'investigation et le décryptage, et probablement aussi renforcer l'investissement dans la capacité à défaire la rumeur et le faux, à lutter contre l'infox, comme on dit, de manière à renforcer encore cette notion de référence que doit constituer France Télévisions en termes d'information indépendante, fiable et pluraliste. Deuxième priorité éditoriale, la culture. La culture qui distingue, la culture qui exprime la créativité, la culture qui exprime aussi toutes les valeurs de la diversité et de la découverte. Beaucoup de choses sont faites comme observateur extérieur. Je m'étonne parfois de cette forme un peu de compétition interne ou de compétition entre acteurs médiatiques français. Je pense qu'il y a dans l'univers des médias français toute la richesse des voix d'expression et de diffusion culturelle. Il y a probablement un gros travail encore à faire sur la promotion et la visibilité, sur l'événement, le spectacle vivant, et en tant qu'ambassadeur. Ambassadeur de la culture sous toutes ses formes pour tout le public, c'est-à-dire sur toutes les chaînes et toutes les plateformes. Ambassadeur en Europe et dans le monde, d'une culture française qui rayonne, mais d'un Français qui perd de son influence et de sa place. Et puis la culture, c'est aussi la collaboration dans l'espace francophone autour de TV5, avec leur projet de TV5 Monde Plus, autour aussi des francophones qui ne font pas partie de cette francophonie européenne de l'Ouest et qui pourtant en constituent la plus grande majorité en termes de présent et certainement en termes de futur. Il y a des voies de collaboration, des voies d'investissement, des voies de co-création dans l'espace francophone qui dépasse et de loin l'espace européen. Troisième axe éditorial, ce sont ces nouveaux territoires éditoriaux. Les sciences, les technologies, le développement soutenable, la santé, évidemment, vu l'agenda de 2020, sont des questions qui traversent la société. On a toutes et tous été fortement impacté par ces manifestations de jeunes autour de questions sur le climat qui ne trouvent pas aujourd'hui de réponse et qui ne trouvent pas de prolongement. Le 21e siècle, c'est l'hybridation entre le linéaire et le non-linéaire, entre la politique de l'offre et puis aussi l'engagement avec le citoyen. Nous devons, dans ces domaines, être créatifs et innovants sur le plan éditorial et engager le débat et le dialogue avec celles et ceux qui forment notre société. Nouveaux territoires éditoriaux, c'est aussi se rappeler que l'éducation aux médias n'est pas arrangée dans les armoires du XXe siècle. En préparant mon dossier, je prenais conscience qu'en France, c'est la situation même un peu plus grave en Belgique, plus de 7,5% de la population n'est pas, pour des raisons technologiques ou de connaissance de maîtrise, connectée sur Internet. 7,5%, c'est peu quand on compare à 100. C'est beaucoup quand on traduit ça en hommes et en femmes. Plus de 5 millions de Françaises et de Français sont déconnectés à l'Internet. Ça légitime évidemment la poursuite de l'investissement dans le linéaire. Ça renvoie à des responsabilités éditoriales en termes d'apprentissage, d'éducation, de réduction de ces fractures qui sont aujourd'hui tout aussi importantes qu'hier. Quatrième axe éditorial, la diversité, bien entendu. La diversité de façon inclusive, la diversité comme une règle, la diversité comme un marqueur de qualité. Pas beaucoup de débats à avoir, de gros travaux à faire. L'expérience, la mienne et l'expérience conduite à France Télévisions, qui a fait beaucoup de progrès et qui, dans certains domaines aujourd'hui, est considérée de manière exemplaire, mais comme d'autres également, je pense au projet 50-50 que la BBC a initié il y a quelque temps, témoigne de l'importance d'aborder les questions de diversité de manière inclusive et de manière globale. C'est la responsabilité de chacun que naîtra le résultat et un résultat d'entreprise. Je ne crois pas aux responsabilités isolées et aux démarches du dessus. Le sens doit être donné. Il ne doit pas y avoir d'espace pour la tolérance ou la négociation. Mais la dynamique, elle doit venir de toutes et de tous dans l'entreprise. Cinquième axe préoccupant, ensuite la proximité. 40% du personnel de France Télévisions travaille en région. C'est le premier des budgets. 13 directions régionales, 24 antennes. Et pourtant, dans les contacts que je peux avoir, France Télévisions et France 3 n'est pas synonyme de proximité au sens global du terme. Il y a là un vrai chantier. Alors, je viens de Belgique. Pour nous, la proximité, c'est quand on a fait 50 kilomètres. Mais je viens aussi d'un pays où la vie associative, la vie des villes et communes, comme on dit chez nous, a fondé quelque part la cohésion sociale. Et je mesure à quel point, dans un univers global, la proximité est absolument nécessaire du tissu social, de la cohésion sociale, mais de la légitimité du service public. Alors là, moi, j'ai évidemment quelques expériences de cette collaboration, de cette hybridation de la radio et de la télévision autour d'un média global. Je pense qu'il faut travailler avec Radio France de manière résolue autour des 44 antennes de Radio France. 44 antennes à l'échelle du territoire français, ça fait encore des territoires de plus d'un million et demi de personnes. Ce sont des grands territoires. Et donc, aller au-delà de cela, ça va faire des territoires beaucoup trop grands. Il y a des études qui ont été conduites par le passé. L'Ofcom en a fait il y a quelques années en Grande-Bretagne, disant que la masse critique d'une télé locale, c'était d'environ un million de personnes, un bassin d'un million. On y est à peu près. Il faut travailler sur les antennes, il faut travailler sur une plateforme commune numérique, il faut travailler sur la présence locale et les partenariats avec les acteurs sociaux, la presse quotidienne régionale. Il faut aussi probablement, c'est un sujet délicat, travailler sur les marques et sur le marketing, de manière à ce qu'il y ait une évidence de la proximité du média public. Sixième axe éditorial, l'innovation et la création numérique. 420 millions d'investissements dans la création. C'est une donnée, ce n'est pas une variable. Il n'y aura pas d'ajustement à la baisse. Mais 420 millions, comparé à Netflix, hein, l'épouvantail ou la référence, Netflix qui publie des comptes de manière relativement opaque, mais qui déclarait quand même en 2018 qu'il allait investir 1 milliard d'euros en création originale en Europe. France Télévisions, cette année, investira 420 millions sur la France. C'est un investissement majeur qui doit nous donner une place et une crédibilité. Il convient d'investir dans tous les domaines et de continuer dans tous les domaines. Deux accents pour moi, le linéaire et le non-linéaire, et l'investissement numérique accru et la créativité. La créativité et l'audace, c'est une marque du service public. Je ne suis pas producteur et je ne suis pas créateur. Mon rôle dans une organisation de médias, mon rôle dans mon organisation de médias, c'est de donner les degrés de liberté, de créer les espaces de co-création, de donner aussi des chaînes courtes de décision de manière à pouvoir créer. Et puis, comme responsable, d'assurer le job, c'est-à-dire de reconnaître qu'on a le droit à l'erreur et de soutenir les équipes quand on commet des erreurs. Ça, c'est ma contribution, mais elle est, je pense, nécessaire à l'éclosion de ces créations et de ces co-créations. Je le disais dans mon introduction, il n'y a pas de média public sans public. Et donc, il convient, dans le même temps qu'on adresse des priorités éditoriales, de travailler à la clarification et la rencontre des publics, ceux qui restent dans l'univers linéaire, ceux qui sont et qui seront demain exclusivement dans l'univers non linéaire. Et donc, il y a deux axes qui ne sont pas prioritaires l'un de l'autre. Le premier, c'est le renfort de la ligne et de l'offre non linéaire. C'est une priorité majeure. Je me fixe un cap ambitieux, 15%. 15%, c'est 450 millions ou plus de 1000 personnes. Il n'y aura pas de moyens nouveaux à France Télévisions. On est dans un univers où les moyens publics ne vont pas croître pendant les prochaines années. Et nous devrons donc procéder à des réalignements internes. C'est ça, faire de la stratégie, c'est de fixer des priorités. Il est nécessaire de le faire si l'on veut être dans cet univers non linéaire où nous sommes aujourd'hui comme France Télévisions imparfaitement. Nous devons avoir, et probablement avec les autres acteurs médias publics français, une plateforme non linéaire de référence, propriétaire et gratuite principalement. Nous devons avoir, et je plaide pour ça, un identifiant unique. Un identifiant unique, on en a, notre fournisseur d'accès Internet nous en demande un, nos magasins d'applications nous en demandent, nos réseaux sociaux nous en demandent, et on les offre. Et puis, il y a des politiques de cookies, de mouchards qui traquent nos comportements. Et puis, finalement, le service public est le seul à ne pas avoir une connaissance des usages, des pratiques, des demandes et des besoins du public auquel il s'adresse. La BBC, la RTBF, de nombreux médias publics ont fait ce trajet depuis longtemps. Ce sera un domaine prioritaire et l'objectif à atteindre, c'est de le faire non seulement au niveau de France Télévisions, mais bien pour l'ensemble des médias publics français. Je le disais, c'est une offre non linéaire avec une plateforme un peu de clarification, déclarification dans les plateformes plus propriétaires. Et puis d'un autre côté, des chaînes linéaires. Des chaînes linéaires avec deux questions. La première, c'est combien de chaînes ? C'est un sujet d'actualité. Comme mandataire public, je m'inscrirai dans les politiques que le gouvernement trace. Comme responsable d'un média, je défendrai ce que je pense et ce que nous pensons comme médias être le meilleur pour remplir nos missions. À ce stade de l'observation, je ne suis pas favorable à l'arrêt rapide de France 4. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui, pour les enfants, d'un espace qui puisse être récréatif, divertissant, pédagogique, ludo-éducatif, culturel. On a également besoin d'un secteur d'animation qui soit fort. C'est un fleuron français. C'est même un des fleurons français les plus réputés et connus mondialement, dans tous les genres de l'animation. Faisons-en une vitrine et soyons-en frères. Mais préparons l'avenir. Les générations qui naissent aujourd'hui seront purement numériques. Et donc dire aujourd'hui qu'on maintient France 4, c'est aussi se préparer dès maintenant à une bascule numérique dans un devenir qui ne convient pas de fixer maintenant. France O est un autre sujet. C'est un sujet important, c'est un sujet qui renvoie à la cohésion territoriale, à la diversité des cultures et des territoires français. C'est aussi une plateforme importante de diffusion documentaire et d'événements. Et donc, il conviendra aussi de travailler sur ce sujet.
Monsieur Philippot.
D'accord. Et puis, il y a France Info. France Info qui est nécessaire comme plateforme. C'est la première. Elle a connu une des croissances les plus fortes. Mais c'est aussi une chaîne qui est en deçà de ses ambitions. Et donc la question, là, est plutôt de savoir quelle complémentarité entre les chaînes, quel rôle de France Info dans la politique éditoriale linéaire de France Télévisions à côté de France 2, de France 3, de France 4 et de France 5. Et puis enfin, je plaide pour le lancement d'un média et d'une plateforme numérique complète pour les jeunes, qui regroupe l'ensemble des activités de l'information au documentaire, en passant par le sport, les sports numériques peut-être, les jeux sûrement, et les programmes culturels. Tout ça, et j'en terminerai par là, ne se fait pas sans transformer l'entreprise. Transformer l'entreprise, c'est avoir une approche sur ses équipes, 10 000 personnes, adresser ses questions de renouvellement, 30% du personnel à plus de 55 ans, 3% moins de 30 ans. C'est gérer un plan de départ ambitieux, important, nécessaire, mais surtout un plan de recrutement dans des fonctions nouvelles. C'est travailler sur la culture d'entreprise. Travailler sur la culture d'entreprise, je ne suis pas quelqu'un qui a un style de management hiérarchique. Je crois à l'entreprise apprenante. Je pense qu'on garantira le futur qu'en apprenant des uns des autres. Les jeunes qui rentrent, c'est 900 nouveaux, et celles et ceux qui forment le patrimoine humain de l'entreprise. Il y a un gros travail sur le sujet. Il y a un travail sur les finances. Et puis, j'en terminerai là. Il y a aussi à se renforcer dans deux domaines. Le domaine de l'expertise numérique. Il n'est pas normal que nous n'ayons pas un pôle de référence numérique au niveau des médias publics français et à France Télévisions. Et sur l'expertise dans le domaine des données. Deux domaines neufs qui sont des domaines de la technologie d'aujourd'hui et de demain que nous devons maîtriser, comme nous avons maîtrisé hier, toutes les technologies de la production, de l'enregistrement et de la diffusion linéaire de la télévision. C'est absolument nécessaire. Et enfin, il y a un outil de production interne. Cet outil de production interne, il faut y investir. Il faut y investir et il faut probablement le moderniser pour qu'il soit numérique. Qu'il soit numérique et qu'il puisse accompagner l'évolution du groupe. Et pour ce faire, je ne crois pas à un modèle de médias publics et je ne crois pas au modèle de médias publics de France Télévisions au XXIe siècle de manière isolée. Il doit fonctionner dans des écosystèmes. Le premier écosystème, c'est celui des médias français. Je souhaite co-créer avec mes consoeurs et collègues un espace de réflexion stratégique et de développement opérationnel commun dans des domaines comme l'expertise numérique, le data, des plateformes OTT, des offres culturelles, l'information, les domaines sont multiples. Le deuxième écosystème, c'est celui des médias français avec Salto, c'est celui des opérateurs de téléphonie, les telcos français, puissants, qui peuvent être acteurs et partenaires dans ces mondes globaux dans lesquels on peut trouver des modèles de renforcement mutuel. C'est bien entendu TV5 et la communauté francophone. Et puis de manière plus large, et on a fait des initiatives de cette nature en Belgique, modestes à notre échelle, mais d'autres en font de manière beaucoup plus ambitieuse. C'est l'écosystème avec toute l'industrie culturelle et créative, cette industrie numérique foisonnante, entre la culture, le numérique et la créativité, dans lequel les médias ont une place, qui peut être riche et forte pour le média, et le média peut renforcer. C'est évidemment aussi l'écosystème de la culture et du patrimoine. Et c'est enfin, bien entendu, l'écosystème de la formation et de l'éducation. De vastes chantiers, des échéances à court, moyen et long terme, avec des jalons fin 2020, mi-2021, début 2022, pour concrétiser. Et puis, un point sur l'horizon, je l'ai appelé Cap 2024. 2024, c'est une année olympique. Ce sera une formidable vitrine de la France dans tous les domaines et pas uniquement sportifs. Ça doit être pour France Télévisions un moteur d'ambition pour utiliser cette plateforme, ce moment, ces Jeux, comme étant une vitrine sportive, évidemment, mais bien plus largement que ça, une vitrine de la modernité médiatique et de la modernité et de la créativité culturelle de la France en Europe et dans le monde. Je vous remercie.
Merci beaucoup de votre présentation. Merci de vous être inscrit dans le délai imparti. Je vais me tourner vers mes collègues qui vont, je n'en doute pas, vous poser quelques questions. Je voulais peut-être vous en poser une d'emblée, si vous me le permettez. Vous avez été renouvelé tout récemment à la tête de la RTBF. Qu'est-ce qui vous amène à vouloir quitter cette maison que vous connaissez bien ?
Écoutez, rien ne m'amène à la quitter. Mais par contre, l'opportunité de cette candidature m'offre un formidable élan pour poursuivre, comme on dit dans le jargon, sortir peut-être un moment d'une zone de confort, mais aussi me mettre à réapprendre et puis à apporter. Je pense qu'il y a énormément de similitudes. Nous sommes très, très proches. Beaucoup de mes collègues à la RTBF viennent de France Télévisions et m'ont fait découvrir cette richesse. Et donc, il y a cette soif d'apprendre, cette volonté, une vraie ambition aussi. Et puis, peut-être de manière... comment dirais-je, un peu présomptueuse, le sentiment que je peux apporter quelque chose, tant mon expérience et peut-être même, et paradoxalement, mon recul me fait voir certains potentiels et certaines ambitions de manière plus forte que quand j'en discute avec mes consoeurs et avec mes confrères qui ont la charge du quotidien et qui parfois est fort pesante.
Nicolas Curien.
Merci. À plusieurs reprises dans le rapport écrit, vous indiquez que vous serez en mesure de dresser une feuille de route claire pour l'entreprise en juillet 2021. Ça ne manque pas de poser la question de quid dans la première année du mandat, à part prendre le pouls de l'entreprise et vous-même être un président apprenant.
Alors, vous avez parfaitement raison. Et écoutez, je me méfie... Bah, j'ai lu, comme tout le monde, énormément de précis de management et les fameux 100 jours au bout desquels on sort un projet ronflant. Ma longévité à la RTBF m'a appris, et je répète le mot, l'humilité du temps nécessaire à changer une organisation. Mais ces dernières années, surtout, m'ont convaincu qu'on libère l'énergie créatrice dans une organisation quand on l'embarque. Et embarquer, ça prend un peu de temps. Ça prend le temps de la co-création, ça prend le temps de l'explication et de la communication, et ça nécessite certains investissements. C'est pour ça que j'ai fixé ce jalon en 2021, mais j'en ai d'autres. Je pense que d'ici la fin de l'année, il y a 6 choses qui doivent être faites. Il faut clarifier l'offre jeunesse dans sa globalité, linéaire et non linéaire, France 4 et son devenir, Oku, Lumni. Il faut lancer les trajets éditoriaux dans l'info, les nouveaux formats, dans la culture. Il faut avoir des laboratoires de co-création, des laboratoires créatifs qui soient déjà en train de travailler. Il y a un devoir d'inventaire. Il y a un devoir d'inventaire et il y a certainement un rendez-vous qui est la trajectoire financière 2020 ajustée, la trajectoire financière 2021 avec des économies à faire, des économies qui devront être faites. Vous ne trouverez pas dans mon rapport et dans mon projet de demande de crédit supplémentaire. Je connais trop bien l'univers dans lequel nous fonctionnons pour dire que c'est illusoire. Je pense par contre qu'on devra gagner d'autres degrés de liberté économique si nous voulons investir. Investir dans la formation, je l'ai dit, je souhaiterais doubler. On forme en 2018, dernier rapport publié de France Télévisions, 2018, à concurrence de 1,6 jours de formation par personne et par an. Je crois qu'il faut aller bien au-delà si on veut évoluer. Et puis, toujours à fin de cette année, on devra savoir si, entre médias publics français, on partage une vue commune de cette plateforme numérique, d'une part, et avec Radio France en particulier, du projet pour démultiplier les offres de proximité entre France Bleu et France 3, d'autre part. Donc ça, ce sont des jalons à fin 2020. À fin 2021, ben oui, il faudra cette vision, mais au-delà de cette vision, les trajets d'organisation et d'investissement. France Télévisions investit, alors c'est pas très clair dans la communication financière auquel j'ai accès, mais entre 80 et 100 millions par an, est-ce suffisant? Je n'en sais rien. Je sais en tout cas que l'économie du 21e siècle est une économie de dépenses opérationnelles et moins de dépenses d'investissement. Et dès lors, il faut trouver des espaces pour tout ça. Et puis en septembre 2021, parce qu'il y a des jalons qui suivent, ce sera la première rentrée, moment toujours un peu symbolique dans les médias, avec l'affirmation plus claire de l'identité des chaînes et des territoires de chacune d'entre elles. Et puis j'aimerais que pour janvier 2022, c'est très ambitieux, j'en suis conscient, mais il faut être déterministe, on puisse lancer cette plateforme OTT nouvelle, que l'on puisse avoir matérialisé les premiers éléments de cette politique de proximité, éditoriale de proximité commune. 18 mois, là, c'est très court. Qu'on ait ce média pour les jeunes, par les jeunes, purement numérique, et qu'on ait, à l'horizon de début 2022, de nouveaux formats d'information et de nouveaux formats culturels sur les plateformes et selon les codes numériques. Donc, il y a un trajet un peu plus large, mais la nécessité d'embarquer l'entreprise.
Nathalie Sonnac.
Merci, Monsieur le Président. Peut-être revenir sur deux piliers de votre projet, en l'occurrence l'information et la proximité. Et vous l'avez précisé à l'oral, vous dites il faut travailler sur des marques, sur la proximité, sur le rapprochement. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être plus concrètement nous dire comment cela se traduit en matière notamment de gouvernance, de stratégie sur France 3, qui à l'heure actuelle se détermine en 13 directions régionales, 24 éditions, 116 antennes, mais vous avez aussi précisé 100 moyens supplémentaires. Alors, comment faites-vous concrètement pour avancer sur ce dossier de France 3 ?
Alors, donc, un, il y a des projets qui sont en cours, il faut les examiner. Il y a le projet NOAA en Nouvelle-Aquitaine, il y a 5 projets, je pense, de rapprochement entre France Bleu et France 3. Voilà, il faut en faire le bilan rapide. Deux, il faut se mettre d'accord sur un niveau de granularité. Je pose dans mon dossier une hypothèse, celle de ces 44 décrochages et antennes de France Bleu. Trois, il faut, en termes de stratégie et de gouvernance, s'entendre avec Radio France. On ne va pas déterminer la gouvernance d'une communauté d'approche et éditoriale unilatéralement. Quatre, je pense qu'au niveau des directions régionales, on se trouve avec des masses critiques en termes d'allocation de moyens, de gouvernance rapprochée, suffisamment déconcentrée par rapport à un siège parisien. Mais on est trop loin du terrain pour avoir une politique de proximité. Donc il faut un cadre et une délégation éditoriale forte. Je crois enfin qu'il y a un travail à faire dans le linéaire, mais aussi dans le non-linéaire. Aujourd'hui, si je veux m'informer, je dois charger l'application de France Bleu, l'application de France 3. Quand je rentre sur France Info, je n'arrive pas à la région que je cherche. Voilà, il y a des points d'accès et probablement développer une application. Et c'est un sujet sensible, ne pas faire l'économie de risquer aussi une réflexion sur la marque avec laquelle on se présente. Donc il y a plusieurs chantiers et plusieurs thématiques. Alors au niveau des budgets et des moyens, je viens d'une structure qui a 8 fois moins de moyens et pour laquelle chaque euro compte tous les jours. C'est une structure qu'on a redéployée en faisant des économies dans certains domaines pour pouvoir réinvestir dans d'autres. Voilà. Je ne pense pas, et surtout à court terme, à une explosion de moyens. Ce serait une façon... peu responsable d'envisager la modernisation du groupe. Il y a un accord social qui a été conclu. C'est un accord important. C'est un accord vraiment essentiel. Il prévoit des départs. Il prévoit des rencontres. Il va falloir continuer d'abord des trajets d'économie pour rentrer dans l'épure financière que le gouvernement a fixée et peut-être au-delà réorienter des moyens de façon à être présent. Mais maintenant, avec 40% des effectifs du groupe et les budgets alloués, il y a un champ et des degrés de liberté à trouver. Il y a un champ et des degrés de liberté à trouver. C'est là que l'échelle du temps intervient. Beaucoup de choses sont très difficiles à réaliser si on veut les faire pour demain matin, mais deviennent possibles si on se fixe 6 mois, 1 an ou 2 ans pour le faire.
Mais là, concrètement, en l'occurrence, quels sont les champs, en termes de structure, par exemple, vous dites c'est 8 fois moins important en termes de budget en Belgique.
Oui.
Ici, dans cette partie justement concernant France 3 et la structure, est-ce que vous pensez qu'il faut amaigrir, transférer des personnels? Est-ce que vous gardez ce plan de 2000 personnes qui s'en vont et vous rembauchez 1000 personnes? Est-ce que c'est plus de 2000 personnes? Concrètement, c'est quoi sur le terrain?
Alors écoutez, là, je ne vais pas vous répondre de manière précise. D'abord, un accord a été conclu avec les organisations représentantes du personnel. Les accords sont faits pour être respectés. Donc cet accord sera respecté. Deux, il y a un devoir d'inventaire que je souhaite avoir. C'est celui de l'inventaire sur le trajet économique et financier. Les derniers comptes publiés de France Télévisions, ils datent de 2018. Depuis, on a des informations et des communications qui nous sont faites. Mais quand je cherche à savoir aujourd'hui quelle est la situation du groupe au moment où nous nous parlons, eh bien, il y a une communication qui est faite par le groupe, qui est crédible. Il y en a une autre par un bureau expert mandaté par les organisations syndicales. Il y en a encore un troisième par un des candidats qui, dans son rapport, fixe un autre chiffre. Voilà, avoir un inventaire sur la situation de départ me semble absolument requis. Je vais vous le dire peut-être d'une autre manière. Avec les effectifs de France Télévisions et de France Bleu en région, la présence des médias publics en région, sur tous les plans, de l'information, de l'événement, du relais de la vie sociale, culturelle, dans ses rapports avec la presse quotidienne, avec les acteurs locaux, culturels et sociaux, elle devrait être significativement renforcée. Et donc, c'est plus une ambition de développement avec probablement énormément de personnes à convaincre et de foyers de résistance à lever qui sont plus dans les manières de faire, dans la répartition du travail que dans les compétences des hommes et des femmes. Voilà, c'est la réalité du responsable d'un média public. Le temps que l'on passe à convaincre, chercher, embarquer, former les équipes est incommensurable par rapport à celui qu'on peut passer à penser et réfléchir le futur. Et ça ne se fait que par les réalités de terrain. Il se fait que j'ai cette petite expérience belge de cet ancrage local fort, d'une part, de ce lien très étroit avec les acteurs économiques, sociaux et culturels de terrain, et de l'hybridation de la télévision et de la radio dans un média radio-télé ou télé-radio avec le prolongement numérique. Cette expérience-là, voilà, elle s'ajoute à l'expérience des 5 opérations, je pense qu'il y en a 5 pour le moment, ou de ce média un peu hybride et nouveau que Enoa, avec aussi un autre laboratoire, alors pour le coup qui est très loin de moi, mais qui existe, du réseau des premières, en Outre-mer, qui est un réseau de médias globaux dans lequel on doit sûrement aussi aller puiser des enseignements bons et à éviter.
Carole Bien-Aimé-Besse.
Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais revenir sur votre, votre proposition d'offre éditoriale créative et originale. Donc, vous insistez beaucoup dans votre dossier sur ce point et également dans votre présentation. Ça se concrétise comment ? C'est-à-dire que quel est votre... vous avez effectivement votre expérience à l'RTBF. Est-ce que vous souhaitez vous en inspirer, sachant que le tissu économique de la production des créateurs est peut-être un peu différent en France et que peut-être la part de production interne n'est pas la même non plus ? Donc, comment vous voyez les choses dans le cadre de votre mandat, potentiel mandat de 5 ans ?
Alors, écoutez, ne jamais considérer que la solution dans un univers est exportable et transposable à un autre. Hein, donc, la notion de taille unique, chère aux anglo-saxons, ne fonctionne pas dans notre domaine. J'ai croisé et vécu beaucoup d'expériences. Alors, il y en a dans la Belgique francophone, il y a la Belgique flamande aussi, qui a un autre tissu de production qui est un peu à mi-chemin entre celui de la RTBF, qui produit énormément en interne et finalement de manière minoritaire en externe, et celui de France Télévisions, qui produit de façon extrêmement majoritaire, hein, près de 90%, au travers de producteurs indépendants, et qui est un tissu très créatif et imaginatif. Il y a le tissu des Scandinaves également, qui, eux, ont des collaborations entre médias sur un espace, sur un bassin qui est culturellement, pas homogène, mais en tout cas qui a des proximités. Donc il y a plusieurs initiatives. Il faut trouver sa voie. Ce que j'entends en fait quand je parle, j'ai évidemment parlé avec des producteurs que je connais en Belgique et puis d'autres dont j'ai fait la connaissance, c'est à la fois l'importance de France Télévisions comme étant le premier donneur d'ordre, mais la nécessité aussi de prendre des risques. De prendre des risques, c'est peut-être sortir de certains genres qui marchent, mais qui sont largement labourés. C'est dans le domaine du flux de sortir de formats standardisés ou parfois de formats historiques et très, très largement historiques. C'est aussi, et ça, c'est une expérience d'un petit pays, hein, des lignes de décision et des équipes créatives qui sont peut-être plus agiles et qui se renouvellent plus vite. Un des éléments d'observateur, c'est dans un univers et dans une structure de la taille de France Télévisions, parfois, les délais et les longueurs de ligne nécessaires entre l'idée, l'ambition, l'envie et la décision. Et on sait, mais ça, ce n'est pas propre à France Télévisions, mais à toutes les grandes organisations, qu'à chaque niveau, il y a un petit lissage, un petit ponçage qui s'effectue. Et donc, les aspérités qui font l'audace... elles sont peut-être moins présentes à la fin de la ligne. S'il y a probablement un enseignement à aller chercher chez Netflix, c'est cette capacité à activer la créativité rapidement. Après, il y a d'autres éléments qu'il ne faut surtout pas retenir de la manière dont ils travaillent.
Et est-ce que du coup, si vous parlez d'organisation, est-ce que finalement c'est redonner du pouvoir aux antennes, rester sur une organisation par pôle ? Est-ce que c'est renforcer la production interne au sein des studios ? Est-ce que vous pouvez peut-être aller plus loin ?
Plusieurs questions. Hein. J'aime pas le propos « rendre du pouvoir aux antennes ». Je pense qu'une organisation moderne, elle est bâtie sur deux pieds, un pied éditorial. Il doit être transversal. Il doit être linéaire et non linéaire. C'est sa richesse et là vraiment il y a de multiples exemples qui montrent qu'on crée des leviers significatifs et sur un biais de publication. Les publications, ce sont des chaînes, mais ce sont aussi des plateformes. Je ne crois pas à la lecture de la plateforme numérique en prolongement du linéaire. Voilà, il y a une partie qui est de la télévision de rattrapage, mais il y a une partie de plus en plus riche et de plus en plus dynamique qui est tout à fait autonome et qui s'adresse à des publics différents. Donc, il faut avoir une forme de lisibilité de la politique des deux côtés et une forte collaboration entre les deux. Mais, et je le vis dans mon organisation tous les jours, cette tension entre ceux qui publient les chaînes, les plateformes et ceux qui produisent et qui créent, elle est permanente. L'organisation, c'est un corps social instable par définition. Et cette forme d'instabilité, il faut la mettre non pas au bénéfice du conflit, mais au bénéfice de la création, de la créativité. Ça, c'est le job du responsable dans sa mission d'animateur. Par rapport au point, faut-il développer l'interne au détriment de l'externe ? J'ai dit l'investissement dans la création, ce n'est pas une variable, c'est une donnée. Il y a un accord de branche qui a été conclu en 2019, je pense, qui refixe les parts production indépendante, production dépendante, hein, 17,5% de production dépendante, je pense. Voilà, il convient de le respecter. Maintenant, est-ce que dans un an, dans deux ans, dans trois ans, ces 17,5%, c'est essentiellement un feuilleton quotidien ou c'est autre chose ? Ça, c'est une question que les équipes et les créateurs de l'entreprise devront donner.
Michel Léridon.
Merci. Alors, vous avez commencé à répondre un peu à la question que je m'apprêtais à vous poser, qui est effectivement de rentrer un peu plus dans le détail à propos de, justement toujours de la créativité, de l'inventivité. Vous dites que je prendrai des initiatives destinées à stimuler les idées innovantes. Je me demandais un peu quelles pouvaient être ces initiatives. Donc, vous avez commencé à tracer quelques lignes, mais si vous pouviez rentrer un peu plus dans le détail, ma curiosité serait encore plus satisfaite. Et dans un autre domaine, dans celui de l'information, vous avez à juste titre rappelé la défiance vis-à-vis des journalistes et vis-à-vis de l'information. Vous avez cité le fait, effectivement, de reconnaître ses erreurs et de les corriger. Et effectivement, c'est primordial. Je crains que ce ne soit pas suffisant. Donc, quelles sont les autres pistes pour rétablir cette confiance ?
Alors, écoutez, si j'avais les recettes pour rétablir la confiance, soit j'aurais un prix Nobel, soit je serais taxé d'être un vrai fumiste. Je crois que c'est un travail de longue haleine. Cette détérioration, elle est préoccupante. Elle n'est pas, et j'insiste à nouveau, hein, donc ce n'est pas la méfiance dans les médias publics et de France Télévisions. C'est une méfiance généralisée. Elle s'est dégradée. Ce n'est pas un phénomène unique. Ce n'est pas un phénomène propre. Mais voilà, force est de constater qu'en France, cette méfiance est plus importante. Je l'ai dit, au risque de me rappeler, je pense qu'il y a... Il y a un travail qui doit se faire au quotidien sur toutes les plateformes. Il y a un travail sur toutes les plateformes, peut-être et avant tout, et peut-être qu'il y a des liens à établir entre cette difficulté à avoir une offre de proximité réelle et la distance qui se fait entre le citoyen et l'information, comme il y a certainement un lien à établir entre la présence de l'information, l'information de France Télévisions comme celle de Radio France sur les plateformes numériques, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes d'usage des jeunes, et une forme d'espace laissé à l'Infox et à d'autres. Maintenant, je pense que c'est par l'exemplarité. Si j'ai souligné à quel point il était important de reconnaître ses erreurs, c'est parce qu'en tant qu'éditeur à la RTBF, j'ai évidemment et je suis soumis aussi à devoir reconnaître les erreurs de notre rédaction et les endosser comme éditeur responsable, tout en protégeant la rédaction et en garantissant son indépendance. Donc ça n'est jamais simple et naturellement, ce n'est pas ce qu'on préfère faire en se levant le matin, mais c'est vraiment nécessaire. Ce que je vois également, et c'est un travail que les anglo-saxons font peut-être plus que nous ne le faisons dans le monde plus latin, c'est à la fois un journalisme des faits, mais aussi des moments où la rédaction partage avec ses publics ses débats internes et ses débats éditoriaux. Je suis frappé de voir à quel point la ligne éditoriale d'un journal télévisé ou d'un site d'information, c'est le fruit d'un débat intense dans la rédaction. Et le débat est parfois aussi riche que l'info en elle-même, parce qu'il montre à quel point des choix sont faits, des priorités sont accordées, des angles sont choisis, des moyens sont développés. Or, on a peut-être par pudeur ou parce qu'on ne pense pas que ça intéresse, on partage peu ça avec nos publics. Mais ces débats-là sont très riches en termes d'éducation, de compréhension, mais de démonstration aussi du professionnalisme et de la pluralité des débats à l'intérieur d'une rédaction. Je crois enfin qu'il y a des nouvelles formes de fabrication à développer si on veut être aussi présent sur les réseaux sociaux, sur des plateformes parfois un peu hasardeuses. Je vais donner un exemple qui n'a d'autre vertu que celle de l'exemple. Pendant le moment de confinement lié à la crise sanitaire, on a une plateforme qui est une plateforme des cultures urbaines. Elle s'appelle Tarmac. Elle n'a d'existence que sur les médias numériques. C'est une plateforme qui a, au niveau belge, une importance tout à fait considérable. On a fait des séances de dialogue entre des journalistes de la rédaction qui suivaient la pandémie avec attention et ce public sur une plateforme de jeu, Twitch, où des journalistes ont chatté pendant plus d'une heure autour de ces questions. Ils avaient intitulé le programme Lockdown. Bon, c'était un programme d'info, mais et c'était fait par des journalistes, mais avec des codes et des usages tout à fait différents. Ça a eu infiniment plus d'impact auprès de ce public que toutes les réunions d'experts que nous avons pu faire pendant longtemps. Ce qu'on a observé aussi, mais en France comme ailleurs, c'est au travers de cette pandémie, il y a de nombreux enseignements à retenir, mais cette nouvelle forme de dialogue qu'on peut créer entre le public et le média, nouvelle forme de dialogue. Alors, on essaie beaucoup de choses. Hein. La plateforme France Info Numérique a des formes de dialogue très intéressantes, très actives et probablement exemplaires par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. Si on se compare à la BBC, par exemple, c'est assez remarquable ce qui se fait. Mais on ne parvient pas à le faire dans les médias linéaires. Et là, il y a des formats. Il y en a eu en France, il y en a eu un peu partout en Europe, qui ont créé ces formes de dialogue dans lesquelles, finalement, le public était non pas sollicité pour dire « j'aime pas » ou pour envoyer un petit commentaire en 3 ou 4 mots sur Twitter ou sur Facebook, mais bien comme étant, interpellant sur les questions et sur les angles éditoriaux à poser. Et puis, la rédaction, elle fait son métier, seule ou avec des experts, pour apporter des réponses. Je ne suis pas pessimiste, mais il ne faut pas se dire que ça va se résorber. Mais il faut le voir avec détermination, en se disant, voilà, c'est un indicateur, il est ce qu'il est, on va travailler, et ça mettra peut-être des années. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas en changeant nos lignes ou en réduisant ces niveaux d'exigence qu'on va rétablir la confiance. Je crois que c'est plutôt en affichant son indépendance et son professionnalisme qu'on le fera.
Jean-François Marie.
Oui. Merci, Monsieur le Président. Je voulais vous poser une question directe. Est-ce que, et de quelle manière vous pensez, si vous répondez oui à cette question, que la RTBF, pour sa partie télévision, est plus proche de l'idée que l'on peut se faire d'un service public que France Télévisions aujourd'hui ?
Oula. Ça, je ne dirais pas. Je ne dirais pas. Alors, je ne dirais pas pour de nombreuses raisons. Quand je vois France Télévisions aujourd'hui, il investit proportionnellement et de valeur absolue de manière plus résolue dans le documentaire. Je pense que c'est un genre qui est un genre moderne de la télévision. Et pas uniquement de la télévision. Et d'ailleurs, sur Slash des documentaires de création numérique qui sont tout à fait passionnants et intéressants. Je pense que France Télévisions investit beaucoup plus dans la fiction. Je pense que France Télévisions a des programmes par la variété de ses chaînes dans le domaine de la connaissance, dans le domaine de l'approfondissement, qui sont plus forts. France Télévisions a un investissement dans le domaine de l'animation que la RTBF ne sait pas se payer. Donc, non.
Je vais poser la question autrement. Quelles idées que vous tirez de votre expérience à la tête de la RTF vous aimeriez, disons, introduire dans votre projet à France Télévisions ?
Alors, écoutez, je pense, j'ai l'immodestie de penser que j'en mets plusieurs. Alors, écoutez, certainement et avant tout sur l'avance numérique. Je pense que toute proportion gardée, nous sommes un pas en avance.
Ah, voyez, déjà,
sur le numérique, vous me parliez de la télévision.
Oui.
Sur le numérique, certainement. Je pense que dans l'univers de la télévision, il y a un champ d'exploration à faire plus avant à France Télévisions sur la promesse de chaque chaîne. Je ne vous le cache pas, quand je suis comme téléspectateur lambda, je me demande parfois si entre France 2 et France 3, il n'y a pas autant d'énergie à se demander comment on va concurrencer l'autre que à mettre à élargir les territoires en se distanciant l'un de l'autre. Ça, c'est des choses qu'on a peut-être fait un petit peu plus vite. Je ne dis pas mieux, mais un petit peu plus vite. Je crois enfin que il y a tout un territoire qu'on explore et qu'on laboure. C'est le territoire de la collaboration et de l'hybridation entre la radio et la télévision. Nous, je lisais encore ces jours-ci les débats sur les animateurs, producteurs et de manière plus large, la question que je me pose comme observateur extérieur depuis longtemps sur cette forme d'affermage que certains producteurs ont de tranches de programmes.
Et ça, vous souhaitez le remettre en cause ?
Écoutez, prudence et modestie à nouveau. Mais en tout cas, il semble que par moment, il y ait, comment dirais-je, l'impact, l'importance, le poids du producteur prime sur celui de la chaîne. Et quelque part, son départ va avoir plus d'impact sur la chaîne que la politique éditoriale globale de la chaîne. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. Et il y a des voies qu'on explore, nous, d'autres ailleurs en Europe, qui sont celles de personnalités d'antennes connues de radio, qui deviennent des personnalités connues de télévision, des personnalités et des programmes éditoriaux de l'un qui deviennent des programmes de l'autre, des univers qui sont des univers un peu plus protégés. Anecdote, j'écoutais France Bleu au mois de février, c'était avant le confinement, j'étais dans les Alpes, j'entends sur France Bleu la promotion d'une fiction qui allait être diffusée dans les heures ou les jours qui suivent sur TF1. Je prenais mon petit déjeuner, je me suis bloqué la gorge. Impossible chez nous. On est dans un univers, alors non pas que ce n'était pas une mauvaise ou une bonne fiction, c'est simplement on est dans des univers où on s'épaule, on se coordonne et on construit des politiques éditoriales, des images, on construit des univers, des programmes, des champs éditoriaux en utilisant toutes ces facettes, la radio, la télé, les plateformes numériques.
Parfait, nous arrivons au terme de cette première heure d'audition. Donc on va faire une petite pause de 5 minutes pour permettre aux personnes présentes dans la salle de bien vouloir, je les en remercie, la quitter. Nous allons reprendre dans 5 minutes dans un format huis clos.